Lola, Roland, Rohan.
Amour, crack.
Rohan.
Garage.
C'était un
lèche.
De marquer sa résistance.
David.
Pardon. Amour, craquement.
De la résistance, ce ra.
C'était un rugissement.
Pire.
Rugissement.
Pascal Paradou.
Comment dire le R, la lettre R? Re, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas anodin. C'est ce que nous raconte le nouveau film de Nurit Aviv, cinéaste de la langue, des langues, de leur histoire et de leur appropriation. Bonjour Nurit Aviv.
Bonjour.
Comment vous prononcez re, R?
R.
R, tout simplement.
R, oui.
Donc ça raconte rien de votre histoire? La façon dont vous le prononcez, puisque vous le prononcez exactement de la même manière que moi et on n'a pas la même histoire.
Il paraît que non, mais moi, je n'entends pas la différence.
Est-ce que la prononciation d'une lettre comme celle-là dit quelque chose du monde et de l'individu?
Il se trouve que ça dit beaucoup. C'est, vous savez, ce qui sort de la bouche, peut-être le plus intime, non? Ce qui sort de la bouche. Et ça s'avère être très intime. Et en même temps, ça, dans mon film, au moins, ça devient de plus en plus politique.
Lettre errante est le titre donc de votre nouveau film, où par des témoignages d'écrivains ou de traducteurs, alors norvégiens, chinois, russes, haïtiens, vous nous racontez comment cette lettre, donc le R, est capitale. Et seulement cette lettre, comment avez-vous eu l'intuition que le R pouvait tout dire ou tant dire?
C'est la lettre pour moi la plus vibrante, la plus, celle qui passe, celle qui résiste le plus dans les passages d'une langue à l'autre ou même à l'intérieur de la même langue, d'un accent d'une région à l'autre. C'est pour moi celle qui est qui parle le plus, hein.
Mais pour vous de tout temps ou pour vous après avoir travaillé pendant plus de 30 ans sur la question des langues?
Non, elle était toujours là. Elle était déjà là à mon enfance. Je suis née à Tel Aviv et autour de moi, les gens parlaient toutes les langues. Et je me suis toujours demandé comment ils vont prononcer mon nom, le prénom. Quel R va sortir de ce visage-là? Et il était tellement, tellement différent entre les rouler, rouler plus, rouler moins, parce que c'est quand on roule, c'est pas le même, hein.
Oui, il y a des façons de rouler.
Ah oui,
il y a les bien roulés et les mal roulés.
Ceux qui parlent espagnol, c'est pas ceux qui parlent les persans ou les turcs. Ça roule pas de la même manière. Et parfois, ça se prononce même pas du tout, même à l'anglais. Au milieu, par exemple, je prends mon nom Nourit, je ne sais pas l'anglais. Et parfois, comme Guy Régis dans le film, qui est haïtien, qu'il dit qu'elle caresse, qu'elle est douce, tandis qu'il trouve les R français très, très durs.
Vous avez consacré un film à l'alphabet du poète et dessinateur ivoirien Bruly Boabré, qui est aussi l'inventeur de l'écriture bété. Là, c'est juste une langue. Vous n'êtes pas interrogé pour savoir est-ce que ça peut faire un film ou est-ce que c'est trop petit?
Pour Bruly Boabré?
Non,
ou pour R.
R.
Ah, les R, ça fait longtemps. Vous savez, déjà dans mon premier film, D'une langue à l'autre, il y a la poétesse Aggie Michol qui raconte comment elle a passé des heures devant le miroir et pour essayer de se débarrasser de son R roulé pour passer à un R comme on parlait dans la rue israélienne, qui est le R guttural. Et après, quelqu'un d'autre m'a raconté cette même histoire. Et vous savez, j'étais dans une autre émission, à la télé, et il y avait une femme japonaise avec moi. On lui a demandé, et parce qu'en japonais, il n'y a pas de R du tout. Alors on a demandé à cette dame, et comment vous avez pu apprendre de dire le R? Elle a dit, j'ai passé des heures devant le miroir, et je me suis entraînée. Donc imaginez, c'est-à-dire, il y a des millions de gens en Asie, où les R n'existent même pas dans leur langue. C'est extraordinaire.
Donc, comment dire et comment apprendre une lettre qui n'existe pas dans sa propre langue, donc dans sa propre enfance, dans son propre cerveau? C'est vrai avec le japonais, c'est vrai avec le coréen aussi, ce
oui.
que j'ai appris.
Oui, Misako, dans mon film, la japonaise, raconte comment son père ne savait pas les dire. Et comme ils habitaient la rue Rolin, alors c'était Rolin. Oui, c'est ça.
Et ça crée des malentendus et des incompréhensions. Nourit Aviv, pourquoi cette passion pour les langues? Sachant qu'à l'origine, vous n'êtes pas du tout linguiste.
Pas du tout.
Alors pourquoi?
Parce que j'ai passé toujours... Il y avait toujours des langues autour de moi. Moi, je ne parle pas beaucoup. 4 ans, pas forcément, mais oui, mais c'est pas beaucoup. Je peux vous dire que dans mon enfance, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui parlaient 7 et beaucoup plus que ça. Et moi, ça m'est fasciné depuis toujours. Vraiment, ça m'est fasciné depuis toujours. Et cette histoire, je trouve presque c'est un miracle. Que comment ça se fait qu'il y a tant de langues? Comment ça se fait qu'il y a des traductions? Ça, c'est encore un miracle plus grand, je trouve. Et j'avais envie... Vous savez, j'étais chef opératrice avant.
Dans le cinéma, donc.
Oui, dans le cinéma. Et j'ai fait l'image. Mais j'ai trouvé déjà qu'en tant que chef opératrice, j'étais traductrice. Déjà. Hein. Et après, quand je suis, par hasard, j'ai glissé vers la réalisation. Et j'avais très envie de parler des traductions, des langues. Et tout ça, c'était comme... Le sujet, alors, au départ, je ne m'attendais pas que je vais faire tant de films. Au départ, j'ai fait un, après il y avait un autre, après il y avait un autre, et que chaque film fait naître un autre.
Avec vous et votre film Nourit Aviv, le dernier en date, Lettres errantes, on circule d'une langue à l'autre. Sur RFI, en début de semaine, on fait aussi des allers-retours entre Paris et ailleurs. C'est le coup de fil de la semaine. Ailleurs à Abidjan avec Maman. Bonjour.
Bonjour à tous. Hein. On n'est pas à 6h55 là, ce n'est pas la chronique de Maman.
C'est pas la chronique de Maman, mais donc je ne vais pas vous présenter puisque tout le monde écoute la chronique de Maman, surtout sur le continent, tous les jours de la semaine. Mais vous êtes dans De Vive Voix aujourd'hui, Maman, parce que vous partez en tournée en Afrique pour un nouveau spectacle. Histoire pas drôle de l'Afrique. Donc j'en déduis qu'il vous a fallu 7 ans pour écrire un nouveau spectacle et vous n'êtes même pas drôle.
Non, c'est l'histoire qui n'est pas drôle. Le rendu, j'espère, sera drôle sur le spectateur de juger. En fait, depuis mon dernier spectacle, quand j'ai monté ma société à Abidjan, je me suis consacré à la production audiovisuelle. Les Africains connaissent le Parlement du Rire, qui est un programme d'humour sur Canal+, très, très, très populaire. Et puis à travailler avec d'autres comédiens, mon film Bienvenue au Gondwana, ça prend beaucoup de temps. Et là, je reviens à mes anciens amours, à mon métier de base, c'est-à-dire seul sur scène.
La scène vous titillait donc?
Oui, elle ne m'a jamais quitté, même si je partageais la scène avec le Parlement du Rire, avec d'autres humoristes ou dans le festival Abidjan Capitale du Rire. Mais là, être tout seul en totale liberté pendant 80-90 minutes, ça me manquait.
Donc votre spectacle « Histoire pas drôle de l'Afrique » raconte quoi? L'histoire de l'Afrique de la conférence de Berlin à aujourd'hui? C'est très pédagogique.
Voilà, c'est ça. Je pars de la conférence de Berlin, je fais des allers-retours. En fait, je tourne en dérision cet épisode où les puissances de l'époque se sont réunies pour décider du sort de l'Afrique, comment ils vont se partager le gâteau. Mais les Africains n'étaient pas conviés. Quoi. C'est cet aspect ironique que je reprends et on voit les conséquences aujourd'hui, même si la conférence de Berlin n'a pas décidé du tracé des frontières des pays africains. Mais je m'amuse à voir l'incongruité des frontières des pays africains, le tracé. Quand on regarde une carte, c'est rigolo, on peut s'amuser du tracé du Togo, du Bénin ou même de la Gambie. Et je m'amuse à faire des va-et-vient entre l'histoire et le présent pour voir les conséquences de ces accords qui ont été faits avec l'actualité d'aujourd'hui.
Donc
je m'amuse avec l'histoire.
Donc c'est drôle et c'est sérieux en même temps. Enfin, on sait que vous êtes taquin, que vous aimez l'absurde, mais que vous êtes un homme droit, quoi.
Oui, l'humour est fait pour ça. En fait, quand je monte sur scène, je veux faire rire les gens, d'accord, mais je veux que ça soit un rire qui tâche, qui laisse des traces sur les chemises des gens qui viennent rigoler avec moi et qui ait une trace dans leur mémoire quand ils vont ressortir. Le rire biodégradable, c'est pas pour moi. Il y a tellement de matière dans l'actualité, dans l'histoire, surtout pour un continent comme l'Afrique, où il suffit de se baisser pour avoir de la matière pour un sketch. Il faut qu'il y ait des messages derrière, il faut qu'il y ait une utilité. Le divertissement sans fond, ça devient une diversion.
Merci Maman et vive le rire durable. Tout commence le 15 mars à Libreville, puis à Accra, Douala, Yaoundé, tout ça en mars. Votre tournée se terminera à Goma en juin, après être passé par Abidjan et Bamako, entre autres capitales. Histoire pas drôle de l'Afrique, un spectacle en partenariat avec RFI.
La terre et l'argile, la microfaune se faufile, au ras du sol s'agite, agile, polyfragments et fossiles. Contour au sédiment, au fer, on se dissout une année entière. Cher ver, délectez-vous de nos chers.
Ode au vert, Françoise Breu sur RFI avec un seul R, extrait d'un album à venir intitulé Vif. Vif est aussi votre rapport aux langues, Nourrit à Vive, car vous trouvez du goût aux mots, vous les écoutez, mais vous leur attribuez aussi des couleurs. Vous attribuez des couleurs aux lettres de l'alphabet, comme Rimbaud d'ailleurs, qui en a fait un poème avec les voyelles A, noir, blanc, etc. Donc R a quelle couleur pour vous ?
Mais justement, moi, contrairement à Rimbaud, c'est absolument pas les voyelles, c'est vraiment les consonnes. Et dans le film, je dis que R avait pas, je parle de mon enfance, avait pas de couleur parce que ça changeait tout le temps. Parce que justement, il est tellement différent entre le R qui sort du fond de la gorge et se roule sur la langue que j'arrivais, les couleurs changeaient constamment. Mais je peux vous dire d'autres couleurs, de d'autres lettres.
Alors, par exemple, je sais pas, le T.
Mais, bon, je peux trouver le T parce que c'est un sorte de gris un peu coloré vers les bleus. C'est un gris bleu. Hein. Mais moi, c'était très fort à mon enfance. Hein, très fort. Et je me suis dit, hier, j'ai compris ça, que les gays, les g, en fait, c'était vraiment le phonème, hein, c'était comme ça, qu'il était vert et Guy Régis, j'ai compris que Guy Régis, parce que je dis pour moi, c'était clair que Guy Régis, parce qu'il y a les couleurs dans le film. Je me suis inspirée de la synesthésie de mon enfance pour la grammaire du film. Et je savais que Guy Régis va être, Junior va être le dernier et que sa couleur est verte. Et en fait, le G était toujours vert. Vous voyez ? Donc, j'ai retrouvé cette couleur-là de mon enfance.
Alors, 6 couleurs, 6 témoignages dans votre film, Nourrit à vive. Celui de Guy Régis, on va l'entendre tout à l'heure. Mais il y a tout d'abord l'écrivaine et traductrice russe Luba Jurgensson, qui entretient un rapport très intime, elle aussi, avec ce R.
Lorsqu'on regarde la lettre R française dans le miroir, son reflet a la forme de la lettre Ya russe, c'est la dernière lettre de l'alphabet russe, qui est aussi le pronom je ou moi. Et cette double image exprime pour moi mon l'être bilingue que je suis devenue. Être bilingue, c'est se traduire en permanence. C'est avoir deux corps. Pas tout à fait pareil, parce que en français, il manquera toujours les mots de l'enfance, ces mots avec lesquels je n'ai pas vécu en français. Et en russe, il manquera toujours les mots du quotidien, parce que quand j'ai quitté l'Union soviétique, le quotidien était très fruste. Et donc les mots du quotidien sont très pauvres, étaient très pauvres à l'époque. Mais je suis à l'aise dans ce double corps. Le va-et-vient est devenu ma maison.
Nourrit à vive, est-ce que vous connaissez aussi ce va-et-vient, cet exil, ces allers-retours entre les langues? Parce que vous êtes né à Tel Aviv, mais vous vivez en France depuis très 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 longtemps et vous parlez
50 ans, au moins.
50 ans français comme vous et moi, j'allais dire.
Non,
en tout cas,
non,
comme moi,
pas.
Presque.
J'ai gardé heureusement un peu d'accent, de couleur colorée, mais vous savez, ce qu'elle dit, ça me concerne absolument, vraiment pareil. Moi ici, il me manque les mots d'enfance, c'est-à-dire que même parfois quand les gens parlent, il me manque l'enfance, je n'ai pas passé ici. Je suis arrivée, j'avais 20 ans. Donc, il me manque ça. Et en hébreu, parfois, il y a des mots nouveaux que je ne connais pas. Chaque fois que j'arrive, il y a des mots que je ne connais pas. Donc, ça, c'est exactement ce qu'elle dit. En plus, j'aime bien le va-et-vient. Vraiment, je suis pas, je me sens pas en exil. Mais je voulais dire autre chose que j'ai découvert avec elle aussi, l'autre jour quand elle était au cinéma. Elle aussi a cette synesthésie de couleurs. Elle m'a révélé que les R pour elle étaient bleus. Et imaginez-vous que sans le savoir, je lui donnais la couleur bleue à elle dans le film.
De toute façon, votre film est un arc-en-ciel ou un feu d'artifice. Il y a autant de couleurs. Il y a une seule lettre, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La beauté de votre film, je trouve, Nourrit à vive, est de pointer justement la dimension très intime de la langue et de nous en faire prendre conscience, même pour quelqu'un qui est comme moi et qui ne parle pratiquement qu'une seule langue, la sienne. Et c'est par exemple ce que raconte un autre témoin dans votre film, l'écrivain norvégien Karl Hove Knokkart, qui a publié un cycle autobiographique et pour qui la prononciation du R est un sujet, ou était plutôt un sujet de conflit avec son père. Donc on est bien là au cœur de l'intimité, de ce qui constitue un petit garçon et puis un homme ensuite.
Oui, en plus il a écrit 6 livres et dans lesquels la relation avec son père est toujours vraiment très dure. Mais
Mon
là...
combat s'appelle selon son livre.
Oui, oui. Et en fait, là, il décrit autour de R une petite scène où tout se cristallise. Son père se moque de lui parce qu'il ne sait pas dire les R, parce qu'il ne savait pas prononcer les R du tout. Et pour le père, il n'est pas le fils qui s'attendait. Donc, il se moque le père qu'il ne dit pas bien le mot. Ils sont en plein mer et il ne sait pas dire un mot avec R. Donc, il se moque de lui. Et à un autre moment, qu'il raconte aussi dans le film, il n'y a pas la question des R, mais quand il emmène des fleurs, et le père dit « ça, il n'y a que les filles qui ramènent les fleurs ». Donc, ce n'était pas le fils qu'il voulait.
D'où la crise d'identité. qu'à traverser cet homme et cet immense écrivain. Alors, dans votre film, il n'y a pas de thèse en tant que telle, ce sont surtout des histoires individuelles, mais certains de vos interlocuteurs ou interlocutrices se risquent à des hypothèses, par exemple Amel Chawati. Alors, il faut dire qu'elle est psychologue et qu'elle distingue le R roulé de son père et de son grand-père face au parler plus neutre des femmes de sa famille.
Je remarque en tout cas que chez les femmes, cette habitude de rouler les R n'existe pas du tout pour elles. Alors peut-être que par cette manière de rouler ce R chez les hommes de la génération de mon grand-père, mais aussi de mon père, c'était une manière de répéter une façon de parler dans le dialecte algérois, c'est-à-dire que il y avait une langue féminine et une langue masculine. Je m'explique. Les hommes ont leur propre expression, leurs propres mots, quand ils parlent entre eux. Et les femmes ont aussi leur propre expression, leurs propres mots, quand elles parlent entre elles. Du coup, peut-être que ce R roulé lorsqu'on parle en français, c'était une manière de répéter cette différence.
Amel, Chawati, qui parlait bien évidemment du R dans la langue arabe. Est-ce que, Nourit Aviv, vous validez cette hypothèse d'une langue féminine d'un côté et d'une langue masculine de l'autre, au moins dans certaines régions du monde, dans le bassin méditerranéen par exemple?
Moi, je peux qu'écouter ce qu'on me raconte, mais elle n'est pas la seule de les dire. Hein. C'est-à-dire qu'elle, Louba, raconte la même chose et... elle raconte la même chose en Russie, et que même chez Tchaïkovski, les chanteurs ne chantent pour les femmes quand les femmes c'est et sans R, parce que les R roulés est considéré comme masculin. Donc, et dans deux endroits différents dans le monde, on fait une distinction entre la langue masculine et la langue féminine. Et même Fonagy, qui est un linguiste, qui a écrit un livre, Les Bases. Il a écrit un livre étrange, Les bases pulsionnelles de la fondation. Et lui, il dit la même chose, que les R roulés est considéré comme masculin.
Donc vous faites votre cette
hypothèse. Mais moi,
cette
j'en sais
hypothèse.
Rien. Moi. Oui, je sais pas. Non, moi, j'écoute. Je ne fais pas d'hypothèse.
Mais cette question, quand même, recouvre des débats actuels aujourd'hui sur la langue française. Si on veut un tout petit peu extrapoler, est-ce que le masculin doit l'emporter? Est-ce que le masculin, c'est le neutre, comme a pu le dire le président de la République Emmanuel Macron, ou faut-il rendre visible le féminin dans la langue, ce que réclament certaines et certains linguistes?
J'en sais rien. Chaque fois que je dois commencer une lettre, je dis « Est-ce que je vais écrire chers amis ou chers amis avec un E, avec... » Chaque fois, je fais différemment. Donc, vous voyez, j'ai pas, ça dépend. J'ai pas... des hypothèses. Est-ce que je dis directrice de la photo? Oui, j'essaye de dire directrice. Directeur avec un E, parce que ça, c'était mon métier d'avant. Je ne sais pas. Je ne suis pas très, très décidée là-dessus.
Vous n'êtes pas pour l'orthodoxie. Enfin, il faut être plus souple avec la langue.
Oui, c'est-à-dire que parfois, je fais ainsi, et parfois, je fais comme ci, comme ça. J'échange. Vraiment, j'échange. Je ne suis pas très décidée sur comment, qu'est-ce qui est bien. Parfois.
Et vous ne prenez pas part au débat?
Non.
Qui peut être virulent, hein, vous
oui,
savez.
Oui, je sais. Mais moi, vous savez, le mot identité, qui est très, très courant, je ne l'utilise jamais. Il n'est pas là dans mes pensées, parce que je crois qu'on change d'identité, qu'on est tout le temps mouvant, que parfois, oui, parfois je suis la juive, parfois je suis la femme, parfois pas du tout la réalisatrice. Je suis pour qu'il y ait plus de femmes, ça c'est évident. J'espère que vous aussi.
Et,
mais il ne faut pas être femme pour les penser. C'était la moindre des choses. Mais après, moi je crois que les identités sont mouvantes et que ça, c'est pas fixé. C'est pas là pour toujours.
Et que la revendication identitaire peut être parfois dangereuse.
Oui. Mais c'est dynamique. Parfois, il y a des moments, oui, qu'il faut lutter pour une chose, précisément ce jour-là, là-dessus. Mais le lendemain, on se bat pour autre chose et on se met avec ceux que la veille, on était contre Jésus.
Alors, votre film Nourrit à vivre est un film intimiste, on l'a dit. C'est aussi un éloge de la diversité.
Exactement.
Et le dernier témoignage est donc celui dont on a déjà beaucoup parlé, le metteur en scène et dramaturge haïtien Guy Régis Junior, qui lui s'intéresse à cette sonorité du air qu'il dit être caressante et sensuelle dans sa langue, le créole, ce qui n'est pas le cas dans toutes les autres langues.
Le R prononcé dans la bouche d'une comédienne ou d'un comédien sénégalais est très différent d'un R d'un caribéen. On a l'impression d'un souffle dans le R du sénégalais. Le R d'un belge est très différent aussi, il est accentué. Enfin, il y a une diversité de façons de prononcer le R et une diversité aussi de façons d'avoir une diction de la langue. C'est très dangereux dans le théâtre, tout de suite on te parle souvent de diction. Comme si quand on disait diction, on disait diction à la française, diction standard qui viendrait de Paris. Je pense que ce serait complètement dommage de se dire qu'une langue doit être prononcée comme ci ou comme ça. Ce qui est plus intéressant, c'est cette grande diversité qui existe partout dans le monde et avec lequel, on fait monde quand on fait théâtre.
Nourrit à vivre, faire monde. Comment vous entendez cette expression? Est-ce que c'est aussi votre désir?
Complètement. Je trouve que c'est fantastique qui dit qu'on fait monde quand on fait théâtre. Parce que en plus, il parle son théâtre avec tous les accents. Et au contraire, c'est la diversité. C'est ça, le monde. C'est ça, le monde, avec la diversité.
Donc, faire monde, ce n'est pas le monolinguisme.
Non. Ça, je crois que tous mes films, d'ailleurs, tous mes personnages, ils sont au moins de deux langues. Au moins, hein, parce que la japonaise, elle nous a fait comprendre, Misako, qu'il y a quatre langues européennes. Le japonais, et maintenant, elle apprend le coréen, qui est différent, mais un peu ressemblant, etc. Je trouve ça, oui.
Donc, faire monde, c'est le plurilinguisme.
Absolument, c'est la diversité. C'est pour ça que l'identité, je veux aussi qu'on ait des identités plusieurs, hein, plurielles.
Quel regard, Nourrit à vivre, vous portez aujourd'hui sur le monde, justement ? Sur la situation du monde, et vous qui faites des allers-retours entre Paris et Jérusalem ou Tel Aviv, comment vous regardez? Je ne sais pas si vous avez envie de vous exprimer sur cette question. Vous regardez ce qui se passe là-bas.
Je trouve ce qui se passe dans le monde terrible. Je ne suis pas du tout optimiste, mais vraiment pas. Et là-bas aussi, je trouve terrifiant. Et que quelque part, j'espère, je ne sais pas, qu'en faisant le film, c'est pas que je crois pas du tout qu'on va changer quoi que ce soit, mais on amène du vital. Ça va, c'est pas meurtrier, c'est pas. On essaye d'amener quelque chose de vital qui vient, que je crois que l'art amène en soi du vital et que c'est pas en soi agressif, c'est la vitalité, pas. C'est en ça que je crois qu'il faut continuer à faire et à faire ensemble avec, comme dit Guy Régis, hein, des gens de partout.
Pour faire, mais pour faire monde, pas, et quelle que suis... soit la question de la langue.
Oui, bien sûr. Mais je me trouve beaucoup plus proche de quelqu'un qui parle ma langue, qui n'est pas ma langue, mais ma langue de vie, ma langue de cinéma, ma langue de croire dans, je ne sais pas, regarder comment le soleil se lève le matin. Mais je dis ça, ça ne suffit pas de regarder, c'est en faire dans son art quelque chose. Le vent dans les arbres, moi j'ai tout ça. Si on le met, si on l'attrape dans sa caméra.
C'est très cinématographique.
Voilà.
Merci beaucoup Nourrit à vivre. L'être errante est actuellement en salle à Paris au 3 Luxembourg avec des débats trois fois par semaine et il sera bientôt projeté sur France 3. Toutes les infos sur le film sur la page RFI de l'émission. À demain.